Chapitre 6. Lupo Nero. Cheyenne courait. Jamais elle n'avait couru aussi vite. Des gouttes de sueur coulaient de ses cheveux coupés très courts, dégoulinant sur son maquillage noir et vert de chasseuse. Elle courait en s'obligeant à ne pas se retourner, même si elle savait que Gulot traînait derrière elle. Tant pis, elle n'allait pas l'attendre. Pas plus que Pépin le Trouillard ou sa grande amie Suzy, qui tous les deux sprintaient 10 mètres devant elle, ne l'attendaient. Ils formaient une patrouille de 4, mais ça ne servait à rien de rester en troupeau. Tous les animaux se dispersent quand ils sont poursuivis, les lapins comme les sangliers. Cheyenne essaya d'accélérer encore, faisant voler les franges de sa tunique. La longue rue jusqu'au fleuve lui semblait interminable. Son cœur battait de plus en plus vite, mais ses pensées, elles, petit à petit, se calmaient. Elle était sortie de la forêt. Ils étaient tous sortis de la forêt. Vivants. S'ils atteignaient le fleuve, ils seraient sauvés.
« Le Lupo Nero !»
hurlait Suzy devant elle, sans ralentir.
« Le Lupo Nero !»
Pépin, à ses côtés, progressait aussi vite, même s'il tenait sa main, paniqué. Des gouttes de sang giclaient de la morsure à son poignet. « Encore quelques mètres !» pensa Cheyenne en grimaçant, résistant à la douleur du poignard de silex glissé dans l'étui à sa ceinture, qui cognait contre sa cuisse chaque fois qu'elle la levait. Elle serra les dents, traverser la place. Rejoindre le fleuve. Se reposer, enfin. Sans réfléchir, en écho aux cris de Suzy et de Pépin, elle hurla à son tour.
« Le Lupo Nero ! Le Lupo Nero !
Attendez-moi !» cria la voix de Gulot derrière elle.
Une voix suppliante d'animal malade. Cheyenne hésita en entendant l'appel au secours. De tous les enfants du tipi, Gulot était celui qui courait le moins vite. Trop gourmand, trop lent. Son nom complet était d'ailleurs Gulot Gulot, le nom d'un petit ours glouton. Gulot Gulot était l'un des meilleurs chasseurs, mais seulement parce qu'il avait toujours faim. Pourtant, contrairement à Pépin, il n'avait été ni mordu, ni blessé. Alors, pour une fois, il pouvait bien se servir de ses grosses jambes pour avancer.
« Attendez-moi !»
supplia encore Gulot Gulot. En un éclair, Cheyenne se demanda si elle devait se retourner ou pas. Non, pas encore. Elle continua de courir, tirant sur ses jambes, fixant le tipi qui grossissait face à elle, entre les arbres, dépassant les maisons. Maintenant, les guetteurs du deuxième et troisième étage devaient les apercevoir, les entendre au moins. Ils interviendraient s'il le fallait. Cheyenne n'allait pas se laisser rattraper par le monstre de la forêt si près du but. Elle conserva son rythme malgré la fatigue. Quelques secondes plus tard, elle repérait enfin le pont. Ne pas se relâcher. Elle ne serait sauvée que lorsqu'elle aurait atteint le fleuve. Elle sprinta encore sur une centaine de mètres avant de s'arrêter, épuisée, au beau milieu du pont. Suzy et Pépin, arrivés les premiers, avaient stoppé leur course, eux aussi, et tentaient de reprendre une respiration normale. Derrière eux, ils entendaient Gulot Gulot gémir et ses pas lourds et lents résonner. Bill fut l'un des premiers à entendre les cris de panique.
« Le Lupo Nero ! Le Lupo Nero ! »
Il pêchait des écrevisses avec une vingtaine de filles et de garçons sur les berges de l'île aux cygnes, cette petite île étroite et toute en longueur qui coupait le fleuve en deux presque au pied du tipi, reliée à la terre par deux ponts. Les enfants se rendaient toute l'année sur l'île, leur île, pour pêcher ou tout simplement pour jouer, construire des cabanes dans les arbres ou juste rêver en observant l'eau couler. Ils s'y sentaient en sécurité, protégés par le fleuve de chaque côté et surveillés par les guetteurs postés à chaque étage du tipi. Après le birthday, la tradition était aussi de venir sur l'île aux cygnes pour se baigner. Une dizaine d'enfants barbotaient dans l'eau.
« Le Lupo Nero ! Le Lupo Nero ! »
Suzy avait repris son souffle et s'était remise à crier, suivie de Pépin qui tenait en grimaçant sa main ensanglantée, puis de Cheyenne, terrifiée. Presque toute la patrouille envoyée ce matin chasser dans la forêt s'égosillait. Bill, accompagné de Wayne, grimpa le plus rapidement possible les quelques marches qui menaient de l'île au pont. Suzy parlait trop vite. Tout le monde au tipi la surnommait Suzette la pipelette. Ses mots se bousculaient.
« Oh ! On a vu le Lupo Nero, près du lac, dans un arbre. Enfin, caché derrière les feuilles et... »«
Vous êtes certain ?» demanda Bill en lui coupant la parole.
On a entendu des hurlements de loups. On s'est approché. Puis les oiseaux se sont envolés. Mais Cheyenne et Pépin ont quand même regardé dans la direction des cris. Le loup continuait de hurler, comme s'il était blessé.
Pépin se tenait le poignet, sans parvenir à empêcher le sang de couler.
J'ai voulu grimper dans un arbre, expliqua-t-il, pour les surprendre, mais le loup Ponero a été plus rapide. Je l'ai pas vu arriver. Il m'a mordu. J'ai eu de la chance, ma main aurait pu y rester, ou mon bras.
Le garçon montra aux enfants les traces de morsures sur son poignet, là où les veines étaient apparentes. Gulo-Gulo arrivait enfin sur le pont, en sueur, épuisé. Il s'appuya sur la rambarde de fer, le regard hagard.
« La forêt est maudite »
hoquetait-il.
« Il ne faut plus y retourner !»«
Idiot !»
grogna Bill.
« Comment on fera pour manger ?»
L'argument parut impressionner Gulo-Gulo. Bill se retourna, observa le tipi qui les dominait de toute sa hauteur, puis baissa les yeux vers la dizaine d'enfants qui nageaient dans le fleuve. L'un d'eux sortait de l'eau en gravissant quelques marches, entièrement nu, trempé et visiblement frigorifié.
« Ne t'habille pas !» ordonna Bill. « Fonce chercher Akane et Mordelia, ça va te réchauffer !»
Quelques minutes plus tard, Akane, Mordelia et presque tous les autres enfants du tipi s'entassaient entre les fines colonnes soutenant le second étage du pont de fer, celui d'où les plus courageux s'amusaient à plonger dans le fleuve. Mordelia ordonna à la foule de s'écarter pour que Pépin puisse respirer. Les rumeurs avaient couru aussi vite que les fuyards, et elles continuaient de circuler, murmurées de bouche à oreille. Toute la patrouille avait été encerclée par une meute de loups, le loup Ponero avait failli arracher le bras de Pépin, puis le monstre les avait poursuivis jusqu'à la lisière de la forêt. La prochaine fois, il traverserait le fleuve pour s'aventurer jusque dans la ville. Mordelia, indifférente aux chuchotements inquiets, se pencha sur Pépin. Elle tira son bras sans ménagement, retourna son poignet, le serra, puis déclara à haute voix
« C'est une morsure d'écureuil !»
Un nouveau murmure parcourut l'assemblée, et même quelques rires fusèrent parmi les enfants qui venaient d'arriver.
« Une morsure d'écureuil ?
L'avait-il vraiment vu, ce trouillard de Pépin, le Louponero ?»
Tous les enfants parlaient du Louponero, de cette créature insaisissable de la forêt. Mais personne ne l'avait jamais vraiment croisé. Certains avaient seulement aperçu une ombre, une silhouette de leur taille, un peu plus grande peut-être, habile à monter aux arbres, aussi rapide qu'un singe, capable de se fondre en un instant dans les feuillages sombres, au point qu'on doutait de l'avoir réellement vu. Le Louponero, était-il un homme ou un animal? Une véritable créature ou une histoire inventée et ensuite amplifiée par l'imagination des garçons et filles apeurés dans la forêt? Une patrouille qui avait la trouille pouvait vite prendre le vent entre les branches pour un hurlement de loup, un tronc mort pour un corps, un écureuil surpris dans son nid pour un monstre assoiffé de sang.
« La blessure n'est pas profonde, » commenta Mordelia. « Mais une veine a été touchée. N'arrête pas d'appuyer dessus. »
Pendant que Pépin serrait son poignet, Mordelia ouvrit le sac qu'elle portait à l'épaule. Il contenait 3 livres dont elle ne se séparait jamais et dont personne n'avait jamais vu les titres. Mordelia continua de fouiller dans son sac et attrapa plusieurs petites boîtes. Elle en ouvrit une, puis en sortit des petits cailloux de couleur blanche, de la taille d'un grain de maïs.
« Avale ça !»
Pépin ne discuta pas. Il savait que Mordelia maîtrisait cette magie-là. Guérir la souffrance, repousser le mal. Elle avait soigné Wayne quand il avait glissé de la liane du premier étage du tipi, et Mook et Camélian quand ses idiots s'étaient brûlés en se battant avec des bâtons enflammés. Ou Noam, le jour où il avait failli se noyer. Tous les enfants du tipi respectaient Mordelia pour cela. Dans quelques minutes, Pépin irait mieux, tous le savaient. Tous supportaient ses allures de sorcière, ses habits noirs de corbeau, ses crises de colère, sa façon de les regarder comme s'ils étaient des vers de terre uniquement pour ça. Un jour, n'importe lequel d'entre eux pouvait avoir besoin de sa magie.
« Je me sens pas bien non plus. »
Gulo-Gulo, assis sur les marches entre l'île et le pont, se tenait le ventre. Une grimace de douleur défigurait son visage.
« C'est à cause des oiseaux, » expliqua Cheyenne.
Elle avait la responsabilité de la patrouille de chasse du matin. On les a suivis quand ils se sont envolés vers l'étang. D'habitude, lorsqu'on cherche à les attraper, ils s'enfuient. Mais là, ils sont restés immobiles, comme s'ils n'étaient pas effrayés, ou comme s'ils ne pouvaient plus bouger. On les a ramassés, presque une dizaine. Ils ne se débattaient pas. Mais ils n'étaient pas morts, ils respiraient. On aurait juste dit qu'ils dormaient. Je croyais pourtant qu'un oiseau ne dormait jamais. Alors Gulo a dit que c'était bizarre et a voulu en goûter un. Elle regarda la foule pour repérer si Agnel était parmi eux. Elle l'aperçut au bout du pont, avec Vanille et Chrysanthe. Il ne serait là que dans quelques secondes. Cheyenne poursuivit son récit. Gulo a fracassé la tête d'un oiseau contre une pierre, et il a goûté son sang en suçant ses doigts. Il lui a trouvé un goût bizarre, puis a ressenti une impression de froid dans son ventre, comme quand on avale de la neige. Gulo confirma en grimaçant. Mordelia, après avoir tâté le gros ventre du garçon, lui fit ouvrir la bouche pour examiner son palais, puis sortit de nouvelles graines d'une boîte de son sac, rose cette fois. Suzy, la première des enfants chasseurs parvenus sur le pont, la première à avoir hurlé « le luponero », attendit que Mordelia ait terminé ses soins pour s'écrier
« Les animaux sont devenus immangeables! Quelqu'un les a empoisonnés !»
Elle jeta de rage la dizaine d'oiseaux de sa besace sur le sol. Tous les étourneaux semblaient paralysés. Ils étaient vivants, mais incapables de battre des ailes, à peine d'ouvrir leur bec. Leurs yeux avaient pris une teinte jaunâtre. Agnel venait de les rejoindre. Il se pencha vers les oiseaux avec autant d'attention que Mordelia sur les enfants malades. Des enfants commentaient la scène, s'inquiétaient, échafaudaient des hypothèses, mais ce fut la voix de Bill qui couvrit toutes les autres.
« On va nous affamer ? Qui ? Qui d'autre que ceux du château ?»
Agnel soulevait les ailes flasques des oiseaux.
« Rien ne le prouve ? »
dit-il doucement.
« Tu les défends toujours ?» continua Bill, d'une voix plus forte encore. « Qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Ils ont attrapé ton copain ! Si ça se trouve... Ils l'ont déjà dévoré. Et maintenant, ils empoisonnent notre gibier. Je croyais que Zizou était ton ami. »
Agnel se leva d'un coup. Sa maigre carrure ne faisait pas le poids face à celle massive de Bill.
« Ça suffit !»
lança soudain une voix autoritaire. Tous les enfants, sur l'île et sur le pont, se figèrent. Leur chef, Akan, silencieux depuis le début, s'était enfin exprimé. Sa grande carrure noire les dominait.
« Attendez !» ordonna-t-il. « Ne touchez pas à ces oiseaux et attendez !»«
Mordelia, viens avec moi !»
Le chef de la tribu et Mordelia descendirent les marches vers l'île. Elle n'était large que de 20 mètres, mais longue de près d'un kilomètre, permettant une grande promenade sous les arbres. Une fois qu'ils furent suffisamment éloignés, Akan demanda « Tu en penses quoi, Mordelia ?»
Bill n'est peut-être pas intelligent, mais il a raison. On doit se préparer à la guerre. Peu importe si ce sont eux, ceux du château, qui empoisonnent les oiseaux. La nourriture risque de manquer. La nourriture et le reste. Nous grandissons à Cannes. Nous serons bientôt des adultes. Le territoire ne sera pas assez grand pour deux tribus. À Cannes fixait le reflet du soleil qui dansait sur l'eau du fleuve. On n'a jamais vu les enfants du château manger ou pêcher. Et ils nous laissent la ville, les forêts. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours vécu en paix.
Jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un a empoisonné ces oiseaux. Et ils ont emprisonné Zizou. Où il se cache, il espionne. Attendons qu'il revienne.
Mordelia s'arrêta. Elle se tenait sous l'ombre d'un saule pleureur. Elle fixa Akan avec un air de mépris.
Et c'est toi que nous avons choisi pour être notre chef? « Tu es le plus fort de nous tous, mais tu es surtout le plus lâche !»
Akan ne baissa pas les yeux. « Je ne veux pas être celui qui conduira ma tribu à la guerre. »«
J'ai peur qu'elle n'ait déjà commencé !»
Akan continua de soutenir le regard de Mordelia. Il savait que les enfants du tipi respecteraient la décision qu'il prendrait. Il craignait Mordelia, mais il ne lui faisait pas confiance, elle était trop différente. Et puis, qui pourrait avoir envie de partir se battre ?
« On va envoyer une nouvelle expédition en forêt, » décréta Akan. « Elle enquêtera sur ce poison qui touche les oiseaux et cherchera si d'autres animaux sont contaminés.
Ils n'oseront pas y retourner. Regarde Gulo Gulo. Il a les yeux épouvantés dès qu'il se tourne vers la forêt. Comme si à tout moment pouvait en sortir le Louponero.
Le Louponero n'existe pas, tonna Hakan. Le Louponero est une légende. Et on en verra des enfants courageux.
Mordelia comprit qu'Hakan ne céderait pas. Elle serra nerveusement la bandoulière de son sac.
Bill, fit-elle. On en verra Bill. Il est assez courageux pour cela.
Bill est stupide, répondit Hakan. C'est une mission importante et compliquée.
Bill est dévoué et obéissant. Il fera ce qu'on lui dira. Il suffira de lui associer un enfant intelligent. Je ne vois personne d'autre qu'Agnel.
Hakan ne put réprimer un mouvement de surprise.
Agnel, il est plus fragile qu'une brindille. Il est incapable de courir, de nager, de soulever un tronc. Il ne tiendra pas 2 heures dans la forêt.
Bill veillera sur lui, répliqua sèchement Mordelia. Et on fera d'une pierre deux coups. C'est une bonne chose d'éloigner Agnel du tipi. Sinon, il va commencer à nous poser des questions sur Zizo. Ils sont comme des jumeaux. Il finira par nous demander des comptes s'il ne revient pas. Par soupçonner des choses. Mieux vaut l'occuper en attendant que Zizo pointe à nouveau le bout de son museau.
Tu crois toujours qu'il va revenir? Tu crois toujours que l'envoyer était une bonne idée?
Mordelia, cette fois, sourit franchement.
Tout se passe comme prévu, non? Ceux du château le retiennent. Il en apprendra beaucoup plus sur eux qu'il ne leur en dira sur nous. Nous pourrons nous battre à armes égales quand il reviendra.
À condition qu'il revienne.
Il reviendra.
Mordelia tourna le dos à Hakan et s'éloigna à pas lents sur la longue allée centrale de l'île. Elle savait que tous les enfants du tipi l'épiaient. La blessure de Pépin ne devait plus saigner. Le ventre de Gulo ne devait plus le faire souffrir. Ça leur suffisait pour croire en sa magie. Mordelia avait besoin d'être seule maintenant, comme elle l'était si souvent au 4e étage du tipi, comme elle l'était dès que le soleil revenait, après le birthday, jusque tard le soir. Elle adorait se sentir différente des autres enfants. Elle l'était, différente. Elle se sentait tellement plus intelligente, si supérieure à tous ces gamins. Elle parvenait de moins en moins à lutter contre le mépris qu'ils lui inspiraient. Et pourtant, tout ce qu'elle entreprenait, c'était pour eux. Pas pour elle, pour eux. Personne ne la comprendrait jamais, pas même Hakan. Elle marcha jusqu'à l'extrémité de l'île. Elle aimait s'asseoir tout au bout, sous cette énorme sculpture de femme de pierre couronnée d'épines, qui levait haut son bras, hissant vers le ciel sa flamme d'or, et surtout, portant entre son bras replié et les plis de sa robe, des livres. Mordelia soupesa le poids des 3 volumes dans son sac. Sans ces 3 livres, elle ne saurait rien. Ils contenaient toute sa magie. Ils contenaient tout ce à quoi elle croyait. La vérité. Sa liberté. Hakan avait remonté les marches de l'île jusqu'au pont. Tous les regards des enfants convergèrent vers lui, leur chef.
« Une expédition partira en forêt, » annonça-t-il d'une voix forte. « Demain, Bill en assurera la sécurité. Agnel examinera les animaux. Les autres, Cheyenne, Wayne et Suzette, les aideront. Vous devrez d'abord rester en bordure de forêt. Puis, jour après jour, avec prudence, vous devrez vous aventurer de plus en plus loin, malgré la trêve. »
Bill et Agnel se regardèrent en se défiant du regard. L'un petit et musclé, et l'autre maigre et tout en os. L'un la tête rentrée dans son cou comme un sanglier entêté, l'autre au long cou de héron, sans cesse inquiet. L'un plus garçon que les garçons, l'autre presque aussi fille que les filles. Les autres membres de l'expédition, Wayne, Cheyenne et Suzette, n'en menaient pas large non plus, et fixaient tour à tour Bill le sanglier et Agnel les chassiers. Hakan haussa encore la voix. «
Il n'existe aucune preuve que les enfants du château aient quelque chose à voir avec l'empoisonnement des oiseaux du lac, mais nous devons rester méfiants. Personne ne doit plus jamais partir seul sur l'île aux cygnes, ni n'importe où ailleurs dans la ville. Et nous avons toutes les raisons de penser qu'ils retiennent Zizo prisonnier. »
Il y eut un long silence. Personne n'osa ajouter quoi que ce soit.
Quelques rares enfants commentaient à voix basse les paroles de leur chef.
Seule Chrysante, assise sur la première marche de l'escalier descendant sur l'île, ne se donna pas la peine de chuchoter. Elle essayait de faire tenir sur la tête de sa poupée un petit chapeau de toile à carreaux.
« Ou peut-être, Lali, qu'il n'est pas du tout prisonnier. Peut-être qu'il préfère la vie de château à notre tipi ouvert aux quatre vents. Peut-être que tout simplement, Zizo nous a abandonnés. »